pour enfants, pour les grands, quoi. Et puis, il y a le lieu sûr, qui est une technique intéressante, hein. C'est-à-dire imaginer un endroit où on se sente bien et convoquer cette image dès qu'on se sent mal. Le problème du lieu sûr, c'est que très souvent, les gens font appel à des clichés du genre une île tropicale. Je me demande toujours ce qui se passe quand un ouragan passe sur l'île tropicale ou quand un tsunami la fait couler sous les eaux. Donc voilà, c'est des méthodes. Moi, j'aime bien m'amuser.
C'est des méthodes réelles, post-trauma.
C'est des méthodes absolument réelles, post-trauma, mais qui évidemment ne suffisent pas. Hein. Alors je m'en moque un petit peu. J'espère que ça. Mais dans la vie réelle, ça peut donner des effets. Simplement, il faut absolument pas oublier la simple et traditionnelle, classique cure par la parole, et l'association libre, justement. Enfin, moi, personnellement, ça m'a sauvé la vie. Je suis une publicité vivante pour la psychanalyse, moi.
Myriam. Mais je ne sais pas si vous le savez, mais en France, vous le savez certainement, il y a une expérience pilote qui est menée, je ne sais plus comment elle s'appelle, avec les traumatisés des attentats du Bataclan, notamment.
Oui, oui.
Où on leur administre des bêta-bloquants, en fait. Ils doivent revivre par la parole, raconter, en fait, leur traumatisme. Et c'est par les médicaments qu'on va les désensibiliser progressivement et ne plus associer d'émotions négatives envahissantes au ressassement du souvenir.
En fait, on essaye plein de choses en ce moment. Je ne suis pas du tout anti-médicaments, hein, par ailleurs. Hein, parce que il faut prendre tout ce qui peut faire du bien, hein, dans ces cas-là. Voilà. Il ne faut juste pas être caricatural dans sa pratique.
On parle avec vous, Marie Darrieussecq, aujourd'hui. Notre vie dans les forêts, c'est votre nouveau roman. Il est paru chez POL. On continue d'en parler avec vous, parce que moi, ce qui m'étonne toujours, c'est qu'on doit guérir de tout et guérir très vite. Et si on pouvait avoir le droit d'aller mal, parce que des fois, ça nous
exactement.
Plaît. Merde,
exactement.
Quoi. Eh bien, ça va être la suite de la discussion.
Entrez sans frapper sur la première.
Si vous voulez, venez de nous rejoindre. On parle aujourd'hui avec Marie Darrieussecq pour son nouveau roman. Il s'intitule « Notre vie dans les forêts ». On vit dans un monde post-apocalyptique, là, dans un futur qui n'est pas si lointain que ça. On sent qu'il est arrivé des choses extrêmement graves au monde et à l'humanité. Et nous avons rendez-vous dans une forêt avec la narratrice. Elle s'appelle Marie. Elle était psychologue. Elle a dû reformer des gens. Et on comprend très vite que le monde dans lequel on vit est notamment dirigé par des robots. On sent aussi que le clonage est devenu quelque chose d'absolument normal, puisque les gens les plus aisés, et ça, la médecine aidera les plus riches, évidemment, et laissera tomber les plus pauvres. C'est aussi une des choses de ce roman. Chacun possède son clone, sa moitié, comme on dit, qui est une espèce de banque d'organes sur laquelle on va aller puiser pour se réparer soi-même. C'est du transhumanisme, hein. On va vivre, nous, le plus longtemps. Et donc, on parle de réparation. Il faut à tout prix réparer les vivants, comme on dit, hein, en littérature, depuis un immense autre succès. Comme si on n'avait plus le droit, aujourd'hui, Marie Darrieussecq, de prendre le temps d'aller mal.
Oui, vous avez entièrement raison. Et ça prend du temps d'aller mal et de se réparer avec les outils qu'on peut trouver en soi et chez les autres, dans les livres et au cinéma et dans la musique aussi. Ça prend du temps. Mmh. Alors qu'on est dans un univers où, effectivement, il faut être productif à nouveau le plus vite possible. Moi, c'est moi qui m'avais... C'est ce qui m'avait choqué, pardon, à l'époque du 11 septembre, c'était... que ces gens, il fallait les renvoyer au boulot le plus vite possible, quelque part. Et ça, j'ai pas mal suivi le destin après des rescapés des tours jumelles à New York et aussi du Pentagone, dont on a beaucoup moins parlé. C'est des gens qui ont eu énormément de mal à se réparer, justement. Beaucoup sont devenus fous ou alcooliques.
Ah oui.
Peut-être parce qu'on ne sait pas réparer ces traumatismes, effectivement. On tâtonne un peu, effectivement, là, je sais pas. En tout cas, ma psychologue, elle a fait ce qu'elle a pu. Elle a fait ce qu'elle a pu avec beaucoup de bonne volonté. Je crois que c'est le minimum qu'on puisse demander à un psy. Enfin, ce qu'on peut lui demander, c'est d'être là, c'est-à-dire d'être absolument présent au rendez-vous. Et aussi, comme je crois que c'était Lacan disait, il faut les avoir à la bonne, les patients. Si on les a pas à la bonne, il faut pas faire ce métier. Voilà. Ça s'appelle le transfert, hein. C'est ni plus ni moins que de l'amour. C'est une forme d'amour. Si on n'a pas ça, et je crois que ma personnage, comme tous mes personnages, elle m'est très sympathique. Elle a fait ce qu'elle a pu, jusqu'à ce qu'elle comprenne que ce système-là dans lequel elle était prise était surtout un système de surveillance et de productivité à mort, en fait. Et donc elle s'est enfuie.
Myriam.
La moitié de l'héroïne s'appelle Marie, qui est le nom de l'héroïne avant qu'elle prenne un nom de fuite.
Ouais.
Au-delà du clin d'œil humoristique, est-ce que ça veut dire quelque chose pour vous, d'y avoir donné votre nom ?
Oui, sûrement, mais je vous avoue que je ne sais pas très bien moi-même. Ce roman, il a une forme initiale qui est une petite nouvelle que j'avais écrite il y a 20 ans à l'époque de Truisme, qui est d'ailleurs disponible sous plusieurs formes sur Internet et puis dans un de mes recueils de nouvelles qui s'appelle Zoo. Et c'est juste ça, c'est juste cette cette image que j'avais eue d'une femme qui rend visite à sa moitié, à son clone endormi. Mm-hmm. Ça me fascinait, cette image. Et de là est sorti ce roman. Voilà. Et je pense qu'effectivement, si j'ai écrit ça il y a si longtemps, c'est aussi que ça veut dire quelque chose de celle qui écrit en moi et qui est à la fois moi et un peu une autre. Et, mm-hmm. et heureusement, je la maîtrise pas très bien non plus, quoi. Je la laisse un peu faire.
Jacques de Pierrepont.
Le clone renvoie aussi à une vieille image de la littérature. C'est peut-être d'ailleurs pour cela que Notre vie dans les forêts est plus un conte philosophique qu'un récit de science, fiction, avec le mot science écrit ouais. en grand devant. À savoir, elle le dit à un certain moment, il y a presque une forme de jalousie. Mon clone est plus beau. Que moi, et donc ça renvoie à la vieille image du miroir,
c'est vrai.
Dis-moi qui est la plus belle.
Oui. Il y a un peu de
elle
ça
est, elle est, comme elle rencontre son clone pour la première fois à l'adolescence, dans une phase assez narcissique et normale de, mm-hmm. du développement humain, elle la trouve plus belle et les psychologues autour d'elle lui disent « Mais non, tu lui ressembles trait pour trait. » Et elle se met ça dans la tête, que l'autre est plus belle. Et ce qui est terrible est tragique, c'est que ça devient vrai, c'est-à-dire elle reste endormie et très préservée, cette clone, et elle a les traits tout lisses, un peu comme une Joconde, tandis que elle, l'héroïne, enfin, ou la non-héroïne, enfin, cette femme qui se débat, elle, et elle s'use, et elle est ridée, elle est un peu abîmée par la vie, elle est même très abîmée, comme on l'apprend au cours du roman, alors que son clone a l'air comme ça, intact, et très lisse, comme dans un bain de lait. Et je pense qu'on peut avoir envie de massacrer son clone aussi. Ouais.
On parlait d'urgence, c'est vrai qu'il y a, on peut parler du style du bouquin aussi, parce que c'est quelqu'un qui réfléchit en écrivant son journal quelque part, ouais. puis à un moment donné elle s'arrête, elle dit bon ben j'en étais où, et puis elle reprend, elle ne fait pas de plan, elle le dit même à un moment donné, voilà je sais pas où je vais mais il faut que j'écrive avant que je ne déconnecte ou que je ne disparaisse, et vous l'avez dit vous-même, vous avez abandonné un projet parce qu'il y avait ces élections pour entamer l'écriture de ce roman, est-ce qu'il y avait aussi une urgence?
Ah oui, je l'ai écrit très vite. Je n'ai fait que ça pendant à peu près un mois et demi, ce qui est à la fois court, mais quand on fait ça, presque s'endormir, ouais. c'est très 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 intense. Et j'étais dans une urgence qui était de ne pas perdre la note. C'était un choix très juste musical, Camille. D'abord prendre ma douleur, mais aussi cette note qu'elle tient tout le temps, le do qui est constamment tenu. Moi, j'ai écrit aussi un roman sur une seule note. Je ne sais pas laquelle, c'est une note littéraire, mais c'est... J'avais tellement peur de la perdre, j'étais dans le souffle de cette voix qui parlait. Et c'est un monologue qui pourrait être dit comme ça d'ailleurs sur scène. Hein. C'est aussi un testament. Cette femme, il faut qu'elle parle. Et ça suit une logique absolue que j'avais dans la tête et que je ne voulais pas perdre justement. Qui est une logique du désastre, hein. Ouais, mais aussi, j'espère, une logique de comédie quand même.
Oui, c'est aussi ça, parce qu'on parle très sérieusement, parce que c'est vrai que les sujets sont très sérieux, mais vous les traitez aussi en comédie. Eric.
L'urgence du personnage, c'est parce qu'il va mourir. Votre urgence à vous, c'était quoi?
C'est la même chose, du con. On va tous mourir.
Mais elle n'est pas dans le même état que le personnage.
Alors, ouais, j'espère.
Vous avez vos deux yeux, vous, Marie-Darius.
Oui.
oui.
Le clone, il a encore. Son clone, il a encore tous ses organes.
Ouais. Oui, il y avait une urgence que je qualifierais de politique. Enfin, je ne sais pas vous, mais moi, je me sens dans un état d'urgence. Ça, c'est effectif dans nos deux capitales. Mais quand même aussi, ça urge. Climatiquement, ça urge. Écologiquement, ça urge. Je sens cette planète nous glisser sous les pieds. Là. Il y a ce formidable livre de Bruno Latour, Où atterrir, qui vient de sortir. Là. Où est-ce qu'on va atterrir? Comment? Dans quel état? Ça va très, 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 très vite, je trouve. C'est très excitant aussi. Hein. Moi, je trouve notre époque passionnante, hein, et passionnante à écrire aussi, justement. Mais je me sentais dans cette vitesse de cette femme aussi, avec ce besoin de partir dans la forêt de temps en temps, enfin, qui reste des forêts.
Qu'il reste des forêts, et là, il en reste, c'est déjà bon signe. On parlait aussi tout à l'heure de cette médecine qui va à deux vitesses, c'est déjà le cas aujourd'hui, il ne faut pas se voiler les yeux, même si les États continuent d'être là pour essayer que nous soyons tous traités de la même manière devant la maladie. On sait qu'il y a des cliniques privées, élitistes, dans lesquelles nous sommes mieux soignés que d'autres et qui n'ont, auxquelles n'ont accès que les gens les plus fortunés. Alors là, dans votre roman, Marie-Darius Sec, c'est poussé, puisque les gens qui ont de l'argent ont un clone avec des pièces de rechange, les autres n'en ont tout simplement pas. On sait que la détérioration de la terre va créer des maladies en tout genre, évidemment, de plus en plus. Est-ce que pour vous, c'est un des problèmes clés qui va se mener dans les prochaines années politiquement, c'est-à-dire assurer le fait que et les riches et les pauvres ont le même droit devant la maladie et ont surtout le même droit à être traités équitablement.
Oui, bien sûr, c'est un des aspects du problème. Les inégalités se sont creusées dramatiquement. Enfin, il y a maintenant ce qu'on appelle les super riches. Il y a toujours cette phrase là, il y a 1% des êtres humains qui posséderaient 99% de ce qu'il y a possédé sur cette terre. Oui, moi, j'ai inventé un univers où finalement, il y a pire que d'être cloné. C'est que il y a seulement une partie des humains qui ont un clone, et pas l'autre partie de l'humanité. Je crois que si on avait tous un clone, si on avait tous un double comme destin, on aurait une condition humaine égale. On serait tous à mon avis, c'est tragique d'avoir un clone, mais bon. Mais s'il y a seulement une partie des humains, ça fait plusieurs catégories d'humains. Enfin, ça amplifie la catastrophe en cours, en fait. Et dans le livre, même, j'imagine une autre classe d'humains qui a une espèce de classe moyenne qui resterait encore et qui a droit, elle, à un bloc cœur-poumon, voilà, dans une jarre. Et ils ont seulement ça de rechange, le reste. Par contre, les super riches peuvent se faire changer les yeux, la peau. Ils ont tous les organes génitaux, ce qui laisse rêveur aussi. Mais je parle de choses qui sont imminentes, à mon avis. Parce qu'en ce moment, en Corée, de façon très banale, mais très chère, on peut faire cloner son chien à partir du pelage, qui contient beaucoup de matériel génétique en très bonnes conditions. Et donc, on obtient le même chien exactement, physiquement, parce qu'il n'est pas né au même moment, il ne sera pas élevé pareil. Il y a des gens qui font des dépressions en découvrant le clone de leur chien, qui n'est pas le même chien. Et ça se fait, alors ça coûte 100 000 dollars de faire cloner son chien, mais ça marche extrêmement bien. Enfin, c'est fascinant et très déroutant. Et donc, si on le fait pour les chiens, enfin, je veux dire, l'humain, c'est déjà fait d'une certaine façon.
Oui, voilà. Et on rend hommage ici à Dolly, la brebis, qui, je pense, elle est morte euthanasiée. Qu'elle a été euthanasiée, la pauvre, les cons. Il l'a créée et puis il l'euthanasie.
Elle s'est fait terminer.
Elle a eu des agneaux. C'est-à-dire que les clones, contrairement à ce que je croyais, ne sont pas du tout stériles. C'est des animaux complètement animaux. Enfin, leur naissance ne les rend pas physiquement différents.
Marie Dariussec, merci beaucoup d'avoir été notre invitée. On rappelle votre roman, il s'intitule « Notre vie dans les forêts ». Et il est sorti dans cette excellente
POL,
maison d'édition
comme toujours,
qui est POL. Merci beaucoup Marie.
Merci beaucoup.